Si effectivement, donc on parle de la guerre civile espagnole qui se déroule entre 1936, qui débute en 1936 et qui s'achève donc en 1939, je dirais qu'on parle d'un conflit qui à la fois était imprévu et en même temps était pratiquement inévitable. C'est-à-dire que cette guerre civile, qui bien entendu comme tout conflit, et notamment comme tout conflit civil, a été marquée par des violences, par des atrocités, qui est une période tout à fait tragique de l'histoire de l'Espagne, est en fait pratiquement l'aboutissement d'une opposition qui n'a cessé de se développer à partir de la fin du XIXe siècle. Entre deux Espagnes, et c'est ainsi que les contemporains, que les acteurs l'ont défini, l'ont vécu, ça a véritablement été donc la lutte de deux conceptions, de deux définitions pratiquement même de l'Espagne. L'une, l'Espagne finalement héritière de l'histoire de l'Espagne de la reconquête de l'histoire de l'Espagne du XVIe siècle, de la grande période coloniale de l'Espagne, de l'Espagne porte-drapeau du catholicisme en Europe à la période moderne, au XVIe, XVIIe siècle, d'une Espagne qui s'était dressée contre les envahisseurs français au tout début du XIXe siècle, donc durant la période napoléonienne, et puis de l'autre, une Espagne née à la fin du XIXe siècle, une Espagne révolutionnaire, une Espagne anarchiste, une Espagne socialiste, une Espagne qui voulait rompre quelque part avec ce passé, avec cette tradition, et une Espagne finalement qui se retrouve confrontée donc au bain de sang, qui se retrouve confrontée donc à la guerre, sans véritablement l'avoir voulu. C'est un sujet qui aujourd'hui est éminemment polémique, c'est vrai. Polémique parce que la guerre, évidemment, donc, a été douloureuse, parce que les origines de la guerre ont été complexes, et puis un sujet polémique parce que, tout particulièrement en France, et si nous étions dans d'autres pays, nous n'aurions sans doute pas le même regard, parce qu'en France, nous avons vécu, en gros, pendant 40 ans, avec pratiquement 500 000 vaincus, réfugiés sur le sol français, qui bien entendu ont donné du conflit une image totalement déformée. C'est enfin un sujet polémique parce que la guerre d'Espagne se déroule avant même, je dirais, elle précède de très peu donc le deuxième conflit mondial. Certains y ont vu une première étape, une espèce de répétition générale, et il est clair que la dimension internationale du conflit a là aussi évidemment suscité des polémiques et a suscité donc des engagements multiples qui n'ont pas toujours été bien compris et qui n'ont pas toujours été forcément très bien jugés. C'est clair, le camp qu'on définira comme national a été aidé abondamment par l'Italie mussolinienne, par l'Allemagne de Hitler, par le Portugal de Salazar également. Le camp républicain, évidemment, lui a bénéficié pleinement de l'aide soviétique et, j'irais d'une manière plus limitée et plus détournée, de la France du Front populaire. Alors, le pourquoi de cette situation, eh bien, ne pas oublier non plus que la guerre est une guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est-à-dire que si les choses avaient tourné comme certains l'auraient souhaité, la prise du pouvoir aurait dû se faire dans des conditions totalement différentes. Et finalement, c'est de l'échec d'un coup d'État, celui du 18 juillet 1936, que va naître cette guerre qui va durer 3 ans. Alors, les origines de cette guerre d'Espagne, parce qu'on ne peut pas comprendre le conflit, je dirais à la limite, le conflit présente peut-être même moins d'intérêt lui-même que ce qu'il a déterminé. Les origines du conflit, elles sont relativement lointaines et elles sont aussi proches. En gros, à partir de la fin du XIXe siècle, l'Espagne s'est trouvée confrontée à un énorme problème, qui est en gros la question agraire, celle de la terre, où une très large majorité d'Espagnols ruraux, petits paysans, effectivement, se sont retrouvés sans terre, concentrés dans d'énormes villages d'ouvriers agricoles, dont la situation était une espèce de chômage chronique. Et en même temps, dans cette fin du XIXe siècle, l'Espagne a également connu un début d'industrialisation, certes modeste, qui a donné naissance à une population ouvrière, concentrée surtout en Catalogne, au nord-est du pays, ou dans les Asturies, donc sur la côte ouest, qui, elle aussi, connaissait une situation, c'est vrai, relativement peu enviable. Cette évolution a entraîné le développement dans l'Espagne de la fin du XIXe siècle d'un très important courant anarchiste. C'est-à-dire que dès le départ, en gros, une partie importante de la population espagnole à refuser les mécanismes électoraux. C'est-à-dire que dès la fin du XIXe siècle, dans la vie politique espagnole, la violence, comme moyen d'expression politique, comme moyen de revendication sociale, est devenue quelque chose de courant, quelque chose d'habituel. Et ce d'autant que la monarchie restaurée en 1872-1873 s'est avérée très rapidement totalement incapable de faire face donc à ses responsabilités. Et les régimes, le régime donc de la restauration, régime qui va durer jusqu'en 1931, proclamation de la République, est un régime qui progressivement s'enfonce dans une corruption toujours plus grande, dans une impuissance toujours plus grande, qui évidemment donc ne fait que qu'aggraver en quelque sorte à la fois les difficultés sociales et économiques de l'Espagne et en même temps qui ne fait qu'aggraver les tensions politiques, les haines politiques et l'idée selon laquelle en gros le processus électoral, je dirais à l'inverse de ce qui se passe dans le reste de l'Europe, le processus électoral est totalement incapable en lui-même donc de résoudre ces problèmes. Donc il va falloir recourir à des moyens violents. D'un côté, un État fort, capable justement de restaurer la situation. De l'autre côté, eh bien tout simplement, la révolution. Et avec l'exemple évidemment de ce qui s'est passé en Union soviétique en 1917, une révolution de type plus ou moins bolchevique, avec ici une nuance anarchiste très très importante. Ça, ce sont les causes lointaines. Les causes un peu plus proches, c'est l'échec de la Deuxième République espagnole de 1931-1936. On a souvent dit que cette Deuxième République était la République gâchée. C'est-à-dire qu'en fait, on a de part et d'autre, et spécialement dans le camp républicain, dans le camp de la gauche espagnole, multiplié dans cette période les provocations, multiplié, je dirais, le refus en quelque sorte de respecter les traditions héritées donc de l'Espagne moderne, c'est-à-dire de l'Espagne, de la grande Espagne, donc jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et il est clair que cette Deuxième République, en quelque sorte, n'a laissé pratiquement que le choix entre effectivement une révolution violente ou tout simplement une tentative de restauration, elle aussi forcément se fondant sur des moyens armés. Cette république qui est proclamée en 1931 est proclamée dans des conditions curieuses. À la suite d'une défaite électorale, c'est-à-dire d'une victoire de la gauche aux élections municipales, le roi d'Espagne s'enfuit, ce qui prouve bien que la monarchie était tellement discréditée en quelque sorte qu'elle n'avait plus les moyens de continuer, sans pour autant abdiquer. Aussitôt, le gouvernement républicain, présidé par un modéré, va s'efforcer de rassurer l'opinion internationale, déjà un petit peu inquiète, et puis surtout va s'efforcer d'assurer la paix civile, ce qui pose déjà d'énormes problèmes face aux anarchistes, très puissants, notamment en Catalogne ou notamment en Andalousie, dans le sud du pays, qui déclenchent immédiatement une série de grèves insurrectionnelles armées, vont assassiner des gardes civils, c'est-à-dire donc des policiers espagnols, vont incendier des églises. Entre notamment le 10 au 11 mai 1931, on a à peu près 200-250 églises qui sont incendiées à travers l'Espagne, et notamment qui vont provoquer la colère du cardinal Prima, archevêque de Tolède, le cardinal Segura, fervent monarchiste, il faut le dire, qui proteste violemment donc auprès du gouvernement dans une lettre pastorale du 15 mai, ce qui provoque d'ailleurs rapidement son expulsion. Et on peut dire que dès 1931, l'Église, qui évidemment occupe une place éminente dans la société espagnole, se sent en quelque sorte presque étrangère dans son propre pays. C'est-à-dire que l'Église d'Espagne est déjà mise dans une situation de repli, de défense, dans une situation de danger qui ne contribue pas évidemment en quelque sorte à apaiser les esprits et qui contribue bien entendu à accroître une inquiétude déjà manifeste et qui contribue aussi bien sûr à faire rapidement évoluer l'Église vers l'idée que eh bien, si jamais un jour cette République doit disparaître, ça sera finalement une bonne chose. Cette situation, elle se dégrade, cette espèce d'opinion, cette espèce d'impression, elle est confirmée par la législation républicaine qui est adoptée. Une constitution qui instaure immédiatement la séparation de l'Église et de l'État, qui prévoit l'extinction du budget des cultes, qui prévoit la dissolution des congrégations liées au pape, et là c'est évidemment donc les jésuites qui sont immédiatement visés, et une constitution qui prévoit également que l'Église devra se gérer par le biais d'associations cultuelles. Il est clair pour quelqu'un qui connaît un petit peu l'histoire de France au XXe siècle, ça ressemble trait pour trait à la politique radicale du début du siècle, c'est-à-dire exactement donc aux mesures qui ont été prises en France en 1904-1905. Les républicains espagnols au pouvoir à ce moment-là n'ont pas été chercher très loin donc leur modèle. Provocation donc contre l'Église, contre les catholiques, provocation également contre l'armée, c'est-à-dire diminution très notable du nombre des officiers, diminution arbitraire des soldes, provocation également lors de défilés militaires, menaces contre des casernes, qui vont se poursuivre jusqu'aux élections législatives de 1933. Cette politique, qui par ailleurs économiquement est très conservatrice, donc ne résout en rien les problèmes qui se posent à l'Espagne, exaspère évidemment à la fois les anarchistes et les socialistes, pressés, je dirais, de voir la révolution s'accomplir, et exaspère évidemment donc le camp conservateur qui sent bien que la menace grandit. Cette situation a d'ailleurs entraîné en août 32 le général Sanjurjo, je le prononce à la française parce qu'à l'espagnol c'est un peu compliqué, a tenté un soulèvement armé qui sera un échec, mais qui montre évidemment que la situation est déjà plus que tendue. 1933, des élections législatives qui voient, à la surprise d'ailleurs de bon nombre d'observateurs, une très large victoire de la droite, et notamment au sein de cette droite, la victoire d'un nouveau parti, la CEDA, la Confédération des droites autonomes, parti catholique présidé par José Gil Robles, qui remporte donc de manière très large ces élections. La pression de la gauche est telle dans le pays que la droite ne peut pas profiter de sa victoire, c'est-à-dire que l'idée même que des députés, des représentants du parti vainqueur des élections puissent rentrer au gouvernement est totalement inacceptable. C'est-à-dire que le président de la République, le président Alcalá Zamora, est obligé de confier le gouvernement à des centristes qui sont minoritaires à l'Assemblée, tout simplement pour ne pas déplaire à la gauche qui déjà est pratiquement prête à tenter donc un soulèvement. Ce soulèvement, il prend la forme d'une grève générale qui se termine, notamment dans les Asturies, région donc minière et industrielle du nord-ouest du pays, par un véritable soulèvement armé, durant lequel des prêtres, comme des gardes civils, sont massacrés. Le gouvernement charge alors le plus jeune général de l'armée espagnole, héros de la guerre du Maroc. L'Espagne avait engagé un très long conflit colonial dans le nord du Maroc contre les tribus révoltées du Rif. Ce général, c'est le général Franco, qui réprime de manière assez sévère, il faut le dire, effectivement, ce soulèvement, mais qui acquiert par là, évidemment, un prestige certain auprès de la population, la fraction conservatrice de la population espagnole, qui voit en lui, finalement, quelqu'un qui, éventuellement, le jour venu, pourrait être apte à remettre un petit peu les choses en l'ordre. On peut dire que ce soulèvement des Asturies qui se produit donc en 1934 est véritablement un tournant. Parce qu'à partir de ce moment-là, toute la gauche espagnole refuse de considérer cette république-là comme quelque chose de durable. C'est-à-dire que la gauche espagnole va se dépêcher de former un front populaire réunissant justement toutes ses composantes pour, dans un premier temps, remporter des élections, et dans un deuxième temps, évidemment, donc, aboutir à une révolution sociale telle qu'elle semble attendue par une partie de la population. À droite, il est clair que la situation est aussi relativement tragique, et les partis de droite, qui sont empêchés de participer au gouvernement depuis leur victoire électorale, réclament une nouvelle constitution destiné à protéger, je dirais, les valeurs de l'Espagne traditionnelle au moment où l'armée est elle-même reprise en main justement par Franco, devenu promu chef d'état-major. Une situation donc qui est extrêmement critique et une situation qui va empirer durant l'année 1935 face à l'impuissance d'un gouvernement minoritaire totalement discréditée par des scandales financiers à répétition et qui débouche sur la dissolution des Cortes, l'Assemblée législative espagnole, et sur de nouvelles élections fixées au 16 février 1936. Paradoxalement, si on regarde les années qui ont précédé, ce sont des élections qui se déroulent de manière très calme, très paisible, pratiquement à la surprise générale. Et ces élections, en raison d'un système électoral un petit peu complexe, qui donne une très large prime à ceux qui s'unissent dès le premier tour, eh bien, va voir la très courte victoire en voix, mais très large en siège, du Front populaire espagnol. Je donne les chiffres, il y a 4 170 000 voix au Front populaire, il y a 3 800 000 voix donc à la droite et au centre, vous voyez que c'est relativement faible, et pourtant ça se traduit par une très très large victoire donc du Front populaire. De qui est composé ce Front populaire espagnol? Des anarchistes, très nombreux dans le pays, des socialistes, devenus de plus en plus maximalistes, justement par contagion, donc des anarchistes et soucieux, je dirais, de faire de la surenchère électorale, des communistes, qui sont encore peu nombreux, mais qui sont bien organisés, et ce qu'on appelle la gauche républicaine, c'est-à-dire l'équivalent de ce que seraient en gros les radicaux en France, qui ont dirigé donc entre 1931 et 1933, et qui sont pour une bonne partie les responsables finalement de la crispation de la situation. Ce Front populaire se permet d'ailleurs, très rapidement après les élections, on doit dire d'ailleurs que le gouvernement, enfin le président de la République, le président Alcalá Zamora, est d'ailleurs tellement à la fois déconcerté et terrorisé qu'il propose la direction du gouvernement à la gauche avant même le deuxième tour des élections. C'est pour dire déjà si les résultats sont pratiquement viciés et si les choses sont déjà jouées. Cette gauche donc victorieuse se permet d'ailleurs d'annuler frauduleusement un certain nombre d'élections de députés de droite, et dans le même temps l'anarchie grandit dans le pays. C'est ce qu'on a du mal à faire ressentir, c'est-à-dire que l'Espagne de ce moment-là, c'est une Espagne qui a une façade encore démocratique, qui a une façade électoraliste, qui a une façade légaliste en quelque sorte, mais où l'anarchie grandit, où les grèves se multiplient, où les assassinats se multiplient, où les enlèvements sont de plus en plus nombreux, notamment enlèvements et assassinats donc des gardes civils, donc des forces de l'ordre, d'officiers, et puis également des incendies d'église, parce que la période donc qui s'étend entre février et juillet 1936 est une période où effectivement on a déjà donc des violences anti-ecclésiastiques très nombreuses, et notamment des incendies d'église, des profanations très nombreuses, spécialement en Catalogne, en Andalousie, en Aragon, dans les régions finalement où la gauche est la plus puissante et surtout où les anarchistes sont les plus puissants. Un gouvernement donc qui est pratiquement impuissant et un pays qui s'affole, enfin, disons que tous ceux qui ne sont pas liés de près ou de loin donc au Front populaire commencent à s'affoler sérieusement, c'est-à-dire à se sentir de plus en plus menacés. Et cette espèce de mouvement de panique, parce qu'il y a une menace physique qui est bien réelle à l'égard donc de ceux qui ne sont pas ni des ouvriers, ni des paysans pauvres, ni des militants de gauche avérés, eh bien cette menace va entraîner le renforcement à droite au détriment de la CEDA, parti finalement électoral, va entraîner le renforcement d'une part de la Falange, qui se crée à ce moment-là, Falange espagnole, dirigée par José Antonio Primo de Rivera, fils de celui qui avait gouverné, je dirais de manière dictatoriale, mais ce qu'on appelait la dictature molle, entre 1933 et 1930 l'Espagne. Montée en puissance de cette phalange conçue un petit peu sur le modèle du fascisme italien, du parti fasciste italien, et puis toujours à droite mais dans une autre tonalité, renforcement aussi de ceux qu'on appelle les carlistes, de la communion traditionnaliste des carlistes, c'est-à-dire parti très catholique, parti légitimiste, pourrait-on dire, monarchiste évidemment, qui dispose déjà d'un certain nombre de bataillons, plus ou moins clandestins à l'époque, mais de bataillons armés, les requetes, qui rentreront très rapidement en ligne, au front, lorsque se produira donc le soulèvement. Le gouvernement, paradoxalement, a bien conscience, je dirais, de cette dégradation de la situation. Il a bien conscience de son impuissance. Il a bien conscience aussi du danger, c'est-à-dire que les autorités du Front populaire, qui pour l'instant ne comprennent ni socialistes d'ailleurs ni communistes, c'est-à-dire que seule la gauche républicaine participe au gouvernement, tient assuré, de manière un petit peu paradoxale, les cérémonies de la Semaine Sainte à Séville, qui vont se dérouler sans heurts. Je dirais que ça, c'est tout le paradoxe de cette Espagne de 1930, où on est à la fois très opposé et où en même temps, où on incendie des églises, mais où en même temps, parce que évidemment ce sont des cérémonies qui sont suivies par toute la population, là on tient à ce que les choses se déroulent à peu près tranquillement. Quelques tentatives donc d'apaisement de part et d'autre, parce qu'on sent bien monter en quelque sorte cette espèce d'inéluctable, et on sait que l'inéluctable sera tragique, parce qu'on sait les haines, je dirais, les heurts et les tensions sont telles qu'on sait bien qu'elles ne se résoudront que dans le sang. Quelques tentatives d'apaisement qui n'aboutissent pas et qui butent le 13 juillet 1936 sur l'assassinat par des gardes d'assaut, c'est-à-dire l'équivalent de nos modernes CRS, d'un député de droite, leader monarchiste, José Calvo Sotelo, qui évidemment, enclenche le processus qui conduit tout simplement donc au soulèvement. Processus de soulèvement qui ne s'élabore pas, je dirais, dans l'émotion. C'est-à-dire que une fraction importante de la droite espagnole, une fraction importante de l'armée, avait déjà conclu à l'inéluctabilité donc de ce soulèvement, avait déjà conclu à l'inéluctabilité de la nécessité de restaurer en quelque sorte l'ordre, de restaurer la situation dans le pays. Préparé par un certain nombre de généraux, notamment le général Molla, qui jouera un grand rôle donc dans la guerre, assisté du colonel Varela, chef des carlistes, à partir de mars 36, eh bien une fraction importante des officiers supérieurs prépare donc un coup d'État. Le général Sanjurjo, qui est en exil au Portugal, est d'ailleurs désigné comme chef nominal du futur soulèvement. Et le but est, je dirais, de restaurer un État fort, de restaurer en quelque sorte la légalité, de restaurer la sécurité des citoyens, y compris dans un cadre républicain, c'est-à-dire qu'au départ, ce soulèvement n'est pas a priori monarchiste, même si évidemment donc les monarchistes font pression, et un soulèvement qui se prépare sans Franco, relégué à ce moment-là donc aux îles Canaries, et qui est plus qu'hésitant, mais qui apparaît très nécessaire parce que c'est lui pratiquement qui a la haute main sur les troupes du Maroc, qui sont donc évidemment la partie la plus importante, la partie la mieux formée, la partie la plus efficace des troupes espagnoles. Et c'est donc cet assassinat, donc le 13 juillet 1936 de Calvo Sotelo, qui va déterminer les différentes factions de la droite, les différents groupes de droite, à s'entendre et à déclencher ce qu'en espagnol on appelle le pronunciamento, c'est-à-dire tout simplement donc le soulèvement. Ce soulèvement, il se produit dans la nuit du 17 au 18 juillet 1936. Il commence au Maroc. Maroc que le général Franco a rallié grâce à un avion anglais affrété. Un soulèvement qui se produit avec des effectifs très limités, avec à peu près, en gros, 150 000 hommes disponibles pour toute la superficie, enfin pour tout ce qu'on appellera, donc à partir de là, le camp national ou le mouvement. Hein, les gens qui se soulèvent s'appellent eux-mêmes, donc se nomment le mouvement, le movimiento, et un soulèvement qui est victorieux donc au Maroc espagnol, qui est victorieux dans le nord du pays, en Navarre, qui est victorieux en Galice, qui est victorieux en Vieille-Castille, qui est victorieux également à Séville, hein, donc dans une infime fraction de l'Andalousie, mais qui échoue, et c'est là la surprise, parce que le but était de s'emparer du pouvoir à la suite de ce soulèvement, mais qui échoue dans les grandes villes, notamment à Valence, à Madrid, à Barcelone, où les insurgés sont rapidement contenus, désarmés et arrêtés. Et bien entendu, immédiatement fusillés. Une situation qui est très critique pour les insurgés, face à, puisqu'une partie donc de leur force est capturée, là où le soulèvement a échoué, les garnisons qui s'étaient soulevées sont donc capturées, sont très rapidement donc exécutées. Un tiers des forces militaires du soulèvement est au Maroc, sans possibilité de traverser le détroit de Gibraltar parce que la marine reste aux mains des républicains, et surtout parce qu'une partie des officiers ne se rallie pas, c'est-à-dire que l'armée espagnole de 1936 est loin d'être unanime dans son appui au soulèvement, et une fraction donc importante, finalement, attentiste. Bon nombre d'ailleurs de ces officiers n'y gagneront pas parce que dans les premiers mois de la guerre, les républicains, enfin ceux qui se nomment les républicains, la gauche espagnole, considérant comme des traîtres potentiels tous les officiers, en exécutera d'ailleurs une bonne partie, je dirais, sans véritablement vérifier le camp qui avait été choisi. Une situation dramatique aussi parce que le 20 juillet, 4 jours après le soulèvement, le jour même d'ailleurs où les dernières garnisons sont finalement vaincues à Madrid, le général Sanjurjo, qui avait donc été désigné comme chef nominal du soulèvement, se tue en avion, ce qui veut dire que le soulèvement finalement se trouve relativement désorganisé. Donc 150 000 nationaux dans une situation assez critique, au moment où les républicains voit se former, dispose d'ailleurs de la partie, il faut le noter, la plus peuplée du pays, la plus industrialisée, la plus riche, et donc conserve le contrôle finalement de l'essentiel des ressources, notamment économiques et industrielles de l'Espagne, et des républicains qui disposent tout d'un coup, et je dirais pratiquement en 3-4 jours de temps, de milices extrêmement nombreuses, contrôlées par les syndicats, par les partis de gauche qui se forment, des milices qui sont plus ou moins armées, sans cohésion, refusant d'ailleurs les officiers quand elles ne les exécutent pas, et beaucoup plus préoccupées d'ailleurs de massacres de combat, c'est-à-dire que le camp républicain dispose peut-être d'hommes, beaucoup plus nombreux que dans le camp national, mais dispose surtout donc de forces totalement inorganisées, et finalement donc de gens qui sont assez peu efficaces. Et on ne va pas refaire l'histoire, mais il est clair que si les forces républicaines avaient été mieux organisées et mieux déterminées dans les premières semaines du conflit, eh bien, il est tout à fait probable que le sort de l'Espagne en aurait été totalement modifié. Pour autant, on peut dire que les deux camps, en quelque sorte, qui avaient prévu finalement donc un conflit très court, soit une prise du pouvoir, soit une élimination rapide du camp adverse, et les républicains, quelque part, ont pratiquement tout fait pour provoquer, en quelque sorte, le soulèvement dans l'espoir d'écraser une fois pour toutes tout ce qui pouvait rester éventuellement, je dirais, de conservateurs ou de réactionnaires ou de nationalistes ou de catholiques en Espagne, ces deux camps, finalement, se trouvent amenés à gérer un conflit qui va durer 3 ans, alors qu'ils n'y étaient absolument pas préparés et dans un pays qui était en proie à la plus terrible des terreurs, parce qu'il est clair que le soulèvement s'est traduit non seulement par des événements militaires, mais se traduit aussi par une terreur politique immédiate, notamment dans la zone républicaine. Incapable d'empêcher le déchaînement de violence, et d'ailleurs très peu soucieux de le faire, en témoigne sa réponse notamment au nonce, qui est encore présent à Madrid, le gouvernement républicain va laisser se déclencher, à l'égard notamment de l'Église, comme à l'égard de tous ceux qui sont soupçonnés, et le mot est commode, d'être des fascistes, c'est-à-dire en gros qui n'est pas ouvrier révolutionnaire dans l'Espagne de juillet 1936 et fasciste, vont laisser donc se déclencher une terreur, notamment de la part des anarchistes et des socialistes. Les massacres qui sont à la fois spontanés, qui sont aussi organisés sur la durée, parce que contrairement à une idée très répandue, les exécutions, notamment de prêtres, mais aussi de dirigeants syndicaux de droite ou de députés des anciens partis de droite, vont se poursuivre pratiquement jusqu'en 1939. C'est vrai que le gros des exécutions, c'est vrai que le gros du massacre va se produire dans les 6 à 8 mois donc, qui suivent le soulèvement, mais c'est vrai aussi que la terreur républicaine, et là encore, je répète, contrairement à une idée donc très répandue, va se poursuivre pratiquement jusqu'à la débâcle finale. Si on prend les persécutions antireligieuses, qui sont les plus spectaculaires, qui sont les plus immédiates et qui sont les plus massives, au total, ce sont 13 évêques qui disparaissent. Ce sont 5225 prêtres, pour autant qu'on puisse en juger. C'est 2700 religieux et religieuses, et ceci d'après le ministère de la Justice républicain. C'est-à-dire que les chiffres, évidemment, ne sont pas vus à la hausse. C'est-à-dire qu'on a à peu près 15% des prêtres diocésains espagnols qui disparaissent dans cette affaire, 23% des religieux et 4% des religieuses espagnoles. Ça, c'est sur le total de l'Espagne. C'est-à-dire que si on prend les chiffres dans la zone républicaine, c'est pratiquement la totalité du clergé qui disparaît dans certains diocèses. C'est 90% du clergé du diocèse de Barbastro en Aragon, pas très loin de Saragosse. C'est 66% à Lérida, c'est 62% à Tortosa, c'est 56% à Ségorbe. Il y a 9 diocèses qui perdent entre 30 et 50% des effectifs du clergé et 7 diocèses qui perdent entre 20 et 30% de ses effectifs. Dans le seul diocèse de Barcelone, ce massacre fait 922 victimes, dont l'évêque, Mgr Urruta, qui est assassiné le 3 décembre. C'est-à-dire que vous voyez que ce n'est pas dans les jours qui suivent le soulèvement, ce n'est pas dans l'émotion. Hein. C'est évidemment donc une exécution, je dirais, faite à tête froide. Et évidemment, donc, ce sont des scènes de barbarie qui je dirais, donc, que l'Espagne voit se dérouler à ce moment-là. À Tolède, ville éminemment symbole, puisque c'est la primatie d'Espagne, c'est la ville donc, qui est capitale religieuse de l'Espagne, des 60 prêtres qui desservaient la cathédrale de Tolède, 42 sont exécutés, et sur les 58 autres desservants de la ville, 40 là aussi disparaissent. Quand on dit disparaissent, ça veut dire que dans le meilleur des cas, on est fusillé, dans le pire des cas, on est aimablement torturé auparavant. Notamment une des techniques utilisées par les anarchistes est tout simplement de faire brûler vif ceux qui leur tombent entre les mains. C'est le cas de l'évêque auxiliaire de Tarragone, c'est le cas de 60 prêtres qui sont brûlés vifs ensemble à Gérone, au nord de Barcelone. Et il y a aussi d'autres supplices, comme de précipiter les gens du haut d'une falaise, notamment en Andalousie, à Ronda, où on oblige tout simplement les victimes à creuser leur tombe avant de les exécuter. C'est quelque chose qui est très fréquent. La violence physique et ces exécutions sont accompagnées, bien entendu, d'incendies. 160 églises à Madrid en 5 jours sont incendiées, de profanations évidente, et non seulement de profanation, je dirais, classique, auquel on s'attend dans ce genre de situation, mais également de violation de sépulture. Hein, des grands sports, là aussi, des anarchistes catalans, notamment ou aragonais, sera de déterrer très fréquemment d'exhumer plus exactement donc les religieuses dans les monastères, et de promener les cadavres et de refusiller les cadavres éventuellement. On a aussi des mascarades anti-religieuses. Enfin bon, on a une espèce de paroxysme, une espèce de folie, de furie anti-religieuse dans ces jours. C'est bien sûr une violence qui ne se limite pas évidemment au clergé, qui va s'étendre à tout ce qui paraît fasciste, je vous l'ai dit, c'est-à-dire en gros catholique ou bourgeois, hein, c'est encore la définition, à tel point d'ailleurs pratiquement que si vous voulez éviter d'être fusillé ou inquiété dans l'Espagne républicaine des mois qui suivent le soulèvement, vous êtes obligé pratiquement de porter le bleu de chauffe ouvrier, ce qui évite évidemment donc les risques. Au total, la violence et la terreur républicaine, là encore, pendant très longtemps, on a parlé. Alors, il est clair que la violence est dans les deux camps, mais on a minimisé cette violence parce qu'une bonne partie des auteurs, notamment de ceux qui écrivaient en France, étaient eux-mêmes d'anciens républicains ou étaient des gens qui avaient fui donc l'Espagne en 1939, a fait à peu près entre 65 et 80 000 morts. À peu près entre 65 et 80 000 morts, même si, et je donne le chiffre des historiens les plus récents, c'est-à-dire de ceux qui ont le plus de recul, et notamment de Bartolomé Benassar, même si à l'époque les nationaux, le gouvernement franquiste, évoquera le chiffre d'à peu près 300 000. Il est clair que les 300 000 victimes sont sans doute exagérées si on prend simplement les exécutions, c'est-à-dire hors guerre, hors front, en quelque sorte, mais il est clair que là encore, la violence républicaine a fait à peu près entre 65 et 80 000 victimes. On doit toutefois noter quand même les efforts, et notamment à l'égard du clergé, les efforts de la généralité de Catalogne, c'est-à-dire du gouvernement catalan, de Luis Companys, du gouvernement basque, gouvernement autonome du Pays basque, et de quelques personnalités, notamment quelques personnalités socialistes, comme Juan Negrín, et puis également des communistes. Et c'est peut-être paradoxal aussi, mais je dirais que c'est très espagnol, ce sont les communistes qui, dans les premiers jours du soulèvement, chercheront en quelque sorte à limiter les dégâts, simplement parce qu'ils ont bien compris que multiplier les exactions, à la différence des anarchistes, que multiplier les exactions, c'est forcément, faire appuyer le soulèvement par la totalité de l'Église, c'est-à-dire donner un poids considérable au soulèvement, un poids qu'il n'aurait peut-être pas eu donc au départ. quelques efforts, donc, qui, et je disais donc que j'étais communiste, simplement c'est pour mémoire, mais les communistes du 5e régiment, donc à Madrid, vont durant toute la totalité du conflit protéger les frères salésiens du collège où ils ont établi leur quartier général, et ces frères salésiens, je dirais, auront la vie sauve grâce notamment donc aux communistes qui les auront protégés pendant ce conflit. Il est vrai que c'est un cas relativement isolé. Alors, il faut quand même l'évoquer, la violence, il est clair qu'elle est bien partagée. Et le tempérament espagnol aidant, les circonstances aidant, on sait bien que ce genre de situation prête au règlement de compte. Et puis, après tout, c'est en gros tuer ou être tué, c'est clair. La violence donc n'est pas absente du côté national. Les exécutions seront très nombreuses dans les zones contrôlées par le mouvement, par les troupes nationales. Et surtout, ce qui sera reproché, c'est peut-être pas tant l'élimination des adversaires politiques que le caractère systématique et surtout durable de la répression. Il est clair qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la guerre d'Espagne, lorsqu'on parle du franquisme, ce qui est d'abord reproché, c'est d'avoir en gros poursuivi l'épuration des années après la fin de la guerre, et notamment jusqu'en 1943. Au total, on a à peu près 60 000 victimes, c'est-à-dire qu'il y a à peu près donc 60 000 exécutions qui sont faites du côté national, dont pratiquement 30 000 après 1939. Et ce sont ces 30 000-là, évidemment, qui pèsent très très lourdement sur l'histoire donc du franquisme et quelque part sur l'histoire du camp national. Alors cette répression, elle était prévue avant le soulèvement. Le général Mola, dans une instruction, disait, je vous le cite, « Il faudra tenir compte de ce que l'action doit revêtir une violence extrême pour réduire le plus vite possible un ennemi qui est fort et bien organisé. » Mola n'avait pas tort. Il était clair que, je dirais, faire des cadeaux à l'adversaire dans cette période, ça n'était sans doute pas indiqué. Poursuivre d'une manière aussi systématique la persécution et l'exécution après la guerre, c'était peut-être pas aussi justifié. Et c'est vrai que c'est le tort, souvent, qu'aujourd'hui on fait à Franco. Et une répression qui est évidemment été nécessaire dans le contexte espagnol et qui va provoquer très rapidement d'ailleurs l'indignation de ces belles consciences intellectuelles catholiques françaises que seront par exemple Mauriac qui vitupère après les massacres de Badajoz, après la prise de la ville de Badajoz, ou de Bernanos qui écrit donc les grands cimetières sous la lune. C'est vrai que Bernanos a constaté la répression nationale aux îles Baléares. Bernanos n'était pas à Barcelone en juillet 1936. Peut-être que, après tout, la situation et surtout son opinion auraient été différentes. La répression, et je crois qu'il faut absolument l'évoquer, parce que là encore, s'il y a des ombres au tableau sur le camp national, c'est notamment du fait de la répression exercée contre les Basques. Contre les Basques qui sont catholiques, se veulent catholiques, qui ne s'associeront jamais au gouvernement républicain, même s'ils demeurent républicains, mais des Basques qui revendiquaient leur autonomie. Or, les généraux espagnols du camp national étaient tout sauf des partisans de l'autonomie, étaient des partisans d'une Espagne, je dirais, castillane, centraliste, et c'est cette position, cette intransigeance qui a amené les dirigeants basques du parti nationaliste Vascon à préférer donc le camp républicain sans pour autant, je répète, s'associer donc au reste des forces de gauche. La répression va d'ailleurs toucher le clergé basque. Des prêtres basques seront exécutés en octobre 1936 par donc les troupes nationales. Massacre aussi d'un certain nombre donc de gens qui ont été capturés alors même qu'ils défendaient des églises contre les tentatives anarchistes. Et on peut dire que cette répression à l'égard des Basques, évidemment, se comprend, si je dirais, on se place du plan sur le strict plan politique de l'avenir unitaire donc de l'Espagne, alors qu'au moment où des tensions, je dirais, des risques de désagrégation existaient, mais il est clair que cette répression a été sans doute un peu aveugle et elle a déterminé d'ailleurs la réserve du Vatican, du Saint-Siège, à l'égard du mouvement national pendant très longtemps, c'est-à-dire que cette répression exercée à l'égard de catholiques, et y compris de membres du clergé, donc, a été évidemment une ombre importante dans l'adhésion qu'aurait pu apporter le Saint-Siège au mouvement national dans l'immédiat. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, sans doute vu de Rome, c'est l'apparence que le mouvement national pouvait présenter d'un alignement sur l'Allemagne, c'est-à-dire avec un système de parti unique, et il était clair qu'un système finalement où les organisations catholiques auraient dû éventuellement donc fusionner, se dissoudre, et il est clair que ça n'était pas très satisfaisant vu de Rome encore une fois. Alors, si on examine quand même donc très rapidement les deux camps en présence, de manière un peu plus précise, si on regarde du côté républicain, ce qu'il en devient de l'État républicain dans cette guerre, eh bien, c'est une réduction continue, d'abord du territoire sur lequel il exerce son autorité. Il est clair que c'est un grignotage donc entre 36 et 39 au profit donc du camp national, au profit donc des zones que moi je n'hésiterai pas à qualifier de libérées. C'est également donc un gouvernement qui voit son autorité diminuée par une lutte des différentes factions de plus en plus vives, qui débouchent même sur de véritables guerres civiles à l'intérieur de la guerre civile, c'est-à-dire que quand on règle ses comptes à gauche, on les règle, je dirais, de manière violente. En mai 1937, les trotskistes et les communistes règlent leurs comptes à coups de mitrailleuses et à coups de canons à Barcelone, et on a donc une élimination donc d'un parti trotskiste donc dans ce printemps, qui désorganise d'ailleurs du point de vue républicain la défense donc de cette zone. En mars 1939, alors que l'armée qu'on peut déjà qualifier de franquiste à ce moment-là, l'armée nationale est aux portes de Madrid et est au bord de la victoire, enfin la République est à l'agonie, les socialistes et les communistes se payent le luxe d'une guerre civile intestine entre le 5 et le 10 mars qui a pour résultat de hâter tout simplement la reddition de la ville. Et puis un camp républicain donc qui voit justement au cours de cette guerre la montée en puissance progressive des communistes. Il est clair que si le parti communiste était très minoritaire en 1936 dans l'ensemble de la gauche espagnole, il est très majoritaire en 1939, il est la grande force organisée parce qu'il a éliminé ses adversaires pour partie, parce qu'il bénéficie du prestige conféré par l'aide soviétique, parce que c'est lui qui va gérer l'aide soviétique, et puis un parti communiste tout simplement bénéficie, je dirais, de ces traditions de discipline et qui fait presque figure, il faut le dire, et ça peut paraître paradoxal, mais de parti de l'ordre au sein de l'Espagne républicaine. Alors d'un ordre, évidemment, qui est un ordre communiste, qu'un ordre rouge, mais beaucoup plus ordonné, évidemment, donc que ne le sont donc les anarchistes. Et quand je dis ordre rouge, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas dans l'Espagne de 36 à 39 de créer, à l'imitation du NKVD, d'ailleurs on a quelques commissaires politiques venus du RSS pour y pourvoir, à créer un service de police politique, le CIM, qui fait très bien son travail, et je peux vous assurer que n'en déplaise aux belles consciences donc justement de ces intellectuels catholiques du moment, que ce qu'on appelait les patrouilles de l'aube dans l'Espagne républicaine de 36 à 39 valaient bien les pelotons d'exécution franquistes, en tout cas n'avaient rien à leur envier. Alors, du camp, et de ce point de vue-là, la terreur était très partagée. Du côté de l'État national, ou de ce qui deviendra donc l'État national, qui se qualifie lui-même donc de mouvement, là, au départ, on a une assez grande diversité, et on peut dire que ce sera le travail de Franco et de l'Église que d'unifier ce mouvement, de lui donner une direction et de lui donner une orientation résolument contre-révolutionnaire, résolument catholique et s'inscrivant, je dirais, résolument dans la filiation de cette Espagne traditionnelle, de cette Espagne donc du XVIIe, du XVIe siècle, de cette Espagne en gros garante finalement de la catholicité donc en Europe. Ça vous surprendra peut-être, mais la junte militaire qui prend le pouvoir dans le nord de l'Espagne en juillet 36, est d'abord présidé par un franc-maçon, le général Cabanelas, qui a senti le vent venir et qui a dit finalement, en train de fusiller dans l'Espagne républicaine et puis m'allier à des monarchistes, peut-être qu'il vaut mieux m'allier à des monarchistes. Cette junte donc de gouvernement qui siège donc à Burgos, au cœur de la vieille Castille, va se rallier progressivement donc au général Franco, qui, lui, le 23 juillet, et le premier, pratiquement, avait qualifié le mouvement de croisade pour la défense de l'Espagne. C'est-à-dire que, dès le départ, c'est presque Franco qui va donner la tonalité de ce que sera le mouvement par la suite, et donner la tonalité, et surtout le sens, donc, du combat pour, justement, donc, contre la République et pour une Espagne catholique et, je dirais, traditionnelle. Franco est proclamé généralissime et chef de l'État le 1er octobre, le communiqué officiel ne précise pas ce qui avait été défini auparavant, c'est-à-dire pour la durée de la guerre, et ça c'est toute l'habileté politique de Franco, et on peut dire que celui-ci va s'occuper très rapidement d'organiser un appareil d'État, avec notamment la création d'une junte technique qui sert en fait de gouvernement, et qui fait que la vie quotidienne des Espagnols dans l'Espagne nationale, dans la zone donc progressivement libérée, sera toujours infiniment plus facile, d'abord parce qu'au plan alimentaire, les ressources sont supérieures, mais parce que tout simplement, le gouvernement fonctionne bien mieux que du côté donc républicain, et on peut dire que la vie quotidienne des populations en sera considérablement facilitée. Alors, le mouvement est évidemment soutenu rapidement par l'Église. D'abord, je dirais de manière de facto, de fait, face au massacre, face à la terreur, et il l'est très rapidement de manière officielle. Le 6 août 1936, le nouveau primat d'Espagne, le cardinal Gomay Thomas, fait radiodiffuser une lettre pastorale appuyant le mouvement, même si quatre évêques demeurent un peu plus mesurés, notamment parce qu'il y a dans ces quatre évêques un évêque, bon c'est clair, il y a le cardinal Segura dont nous avons déjà parlé, qui est monarchiste et lui qui ne veut entendre parler que de restauration de la monarchie, donc il a décidé de ne pas signer tant qu'on n'aurait pas précisé que ce serait la monarchie qui serait rétablie. On a également un évêque basque qui, évidemment, voit ce qui se passe du côté basque et, est évidemment plus que mesuré. Et puis deux autres évêques qui sont un peu plus, apparemment, réservés, sans pour avoir autant de connotations très marquées. Et le 29 décembre 1936, de croisade, effectivement, pour désigner donc ce mouvement national. Et je vous cite, et je vous lis d'ailleurs un extrait de cette lettre pastorale, donc signée donc, de l'ensemble de l'épiscopat vivant, à ce moment-là, évidemment, puisqu'une bonne partie a déjà disparu. L'Église, en dépit de son esprit de paix et de ce qu'elle n'a ni voulu la guerre, ni participé à celle-ci, ne pouvait être indifférente dans la lutte. Elle s'en trouvait empêchée par sa doctrine, son esprit, le souci de sa propre conservation et l'expérience de la Russie. D'un côté, l'on supprimait Dieu, dont l'Église doit réaliser l'œuvre dans le monde, et on lui causait des torts immenses au plan des personnes, des choses et des droits, comme peut-être aucune institution n'en avait subi dans l'histoire. De l'autre, quels que fussent les défauts humains, se trouvait l'effort pour la consolidation du vieil esprit espagnol et chrétien. Et cette lettre pastorale, donc, qui montre bien que ça n'est pas une adhésion sans aucune réserve, c'est-à-dire qu'on a bien conscience que la guerre civile, comme toute guerre civile, est forcément une guerre sale, en quelque sorte, et bien en même temps, se fait au nom des intérêts supérieurs de l'Espagne et au nom des intérêts supérieurs de l'Église, qui finalement a le choix entre soutenir le mouvement ou disparaître, c'est-à-dire à terme redonner naissance à une Espagne chrétienne, catholique, ou bien tout simplement disparaître et laisser l'Espagne aux mains des sans-dieux. Alors, une Église d'Espagne qui s'engage donc de manière très ferme, même si le Vatican, dans un premier temps, reste réservé. Et il reste sans doute réservé beaucoup plus en raison du contexte international, c'est-à-dire de ne pas apparaître dans un moment, évidemment, où on est déjà pratiquement, Munich est pas loin, où les relations entre la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie sont pas au mieux. Il est clair que le Vatican veut sans doute ne pas donner, des gages trop importants aux Allemands et aux Italiens, en quelque sorte, en soutenant le camp national auprès duquel ils sont engagés. Pour autant, donc, le 16 mai 1938, un nonce donc est nommé, accrédité quelques jours plus tard donc auprès de Franco. Il s'agit de Mgr Sicco Gnani, qui sera d'ailleurs plus tard secrétaire d'État, si ma mémoire ne joue pas des tours, de Paul VI. Et finalement, à partir de cette date, en quelque sorte, il est clair que l'Église fait corps, évidemment, donc avec le mouvement. Et à l'exception, une fois encore, du cardinal Segura, qui livre sa petite guerre personnelle, maintenant il est archevêque de Séville, qui refusera toujours, même après la victoire finale, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que le cardinal Segura refusera systématiquement de rendre les hommages au gouvernement Franco, et notamment refusera systématiquement de saluer Franco comme chef de l'État, considérant que c'est un usurpateur. Bon, mais ça, c'est la guerre du cardinal. C'est la guerre dans la guerre. Simplement, donc là aussi, petite réserve donc de l'épiscopat espagnol et puis du Vatican à l'égard de ce qu'on appelle les décrets d'unification, sans doute à tort, mais là encore parce qu'on avait sans doute peur d'une dérive un petit peu à l'allemande. Décret d'unification, c'est-à-dire que Franco, qui est décidé à favoriser l'efficacité, je dirais, dans la conduite de la guerre, qui est surtout aussi décidé à éviter la lutte des factions, parce qu'après tout, dans le camp national, tout le monde n'a pas exactement donc la même opinion, les mêmes conceptions politiques. Franco va dissoudre l'ensemble des mouvements existants pour les fondre le 19 avril 1937 dans un mouvement fourre-tout qui s'appelle, je vous donne le nom en français, mais il porte un nom magnifique, qui s'appelle la Phalange espagnole traditionnaliste et des jonces, les jonces étant les juntes d'offensive nationale syndicaliste. Il y en a un petit peu pour chacun, il y a la phalange pour les phalangistes, il y a le traditionaliste pour la communion traditionaliste des carlistes, et puis il y a donc les jonces qui était un mouvement donc, qui existait avant 1936, et Franco a l'habileté tout simplement de réduire donc, tous ces mouvements en un seul, dont il a la haute main, évidemment, ce qui l'évite d'avoir à négocier, d'avoir à palabrer avec des leaders politiques qui sont d'ailleurs rapidement expulsés. C'est le cas de Falconde, le chef des carlistes. C'est le cas de Gil Robles, le chef de l'ancienne SEDA de la République. Et puis c'est le cas aussi de Manuel Edilla, devenu chef de la phalange après l'exécution de José Antonio Primo de Rivera, en fin d'année 1936 par les Républicains. Manuel Edilla, qui est même condamné à mort pour activité factieuse dans le camp national, et qui sera gracié et qui sera prié de quitter rapidement l'Espagne. En gros, Franco reste seul maître à bord très rapidement. Une restauration politique, je dirais, qui s'accompagne d'une restauration de l'État sur des bases nouvelles. Et je dirais que Franco, en quelque sorte, devance pratiquement l'Église dans sa volonté de restaurer donc une Espagne traditionnelle, une Espagne catholique, avec notamment la promulgation, le 31 janvier 1938, de la loi organique de l'État, qui sert donc de constitution, dans laquelle, entre autres, loi organique de l'État, qui précise justement que désormais l'Église et l'État, enfin le catholicisme est religion d'État de l'Espagne, et par une série de décrets qui revient sur toute la législation républicaine. Le 2 mars 1938, c'est la suspension du divorce, qui sera ensuite supprimée. Le 8 mars, c'est le rétablissement du crucifix dans les écoles et dans tous les édifices publics. Le 12 mars 1938, c'est la restauration de la valeur légale du mariage religieux, qui avait été aboli là aussi par la République. Le 18 juillet, c'est la création des allocations familiales, parce que quand on est catholique, on se préoccupe de la famille, y compris qu'on est dans un pays en guerre et dans un pays qui est pratiquement ruiné. Et puis c'est également la promulgation d'une charte du travail, toute une série donc de mesures qui finalement donc amorcent en pleine guerre déjà ce que sera le futur État franquiste, ce que sera donc l'Espagne nationale de l'après-39. Alors, ça, finalement, c'est pour camper, en quelque sorte, donc les camps présents, c'est leur évolution. Il nous reste à voir maintenant les grandes étapes de cette guerre, parce que c'est une guerre, évidemment, qui s'est déroulée dans le temps et qui n'a pas été simple. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à l'hiver, à la charnière de l'année 37-38, et jusqu'au printemps 38, la victoire du camp national n'était absolument pas avérée. La victoire du camp national n'est absolument pas certaine, et on peut dire qu'il a fallu pratiquement lutter jusqu'au bout pour que cette victoire se décide. Le conflit espagnol est évidemment un conflit espagnol. C'est clair que la guerre civile d'Espagne, c'est d'abord une guerre civile. Mais c'est aussi un conflit qui, très rapidement, va prendre une dimension internationale, puisque chacun des deux camps donc, va recevoir un soutien de l'étranger, en dépit de différentes conventions de non-intervention. La Grande-Bretagne et la France étant très soucieuses, effectivement, de faire en sorte que l'Espagne ne serve pas, en quelque sorte, de terrain d'essai, à l'Allemagne donc, et à l'Italie. Et puis, en même temps, très soucieuses de limiter la contagion révolutionnaire, parce que pour les Anglais, il est clair que la menace d'une Espagne communiste était au moins aussi grande que l'éventualité d'une Espagne nationale alliée, entre guillemets, de l'Allemagne et de l'Italie. Du côté national, donc, on voit l'intervention des Italiens, des Allemands, qui vont fournir du matériel, 1040 avions, 1930 canons, plus de 7000 véhicules, c'est pas négligeable, des hommes, 87 000 au total, Allemands et Italiens donc serviront en Espagne, pas tous en même temps, hein, c'est 87 000 hommes au total, et puis de l'argent, c'est-à-dire que tout simplement le gouvernement de la junte de Burgos paiera ses achats à terme, hein, c'est-à-dire qu'on finalement lui fait crédit, sauf que les Allemands ont négocié des contrats de livraison en nature, notamment minerais de fer, minerais de cuivre des Asturies, dont les Allemands avaient bien besoin pour leur industrie. Et on peut dire que les Allemands n'ont rien perdu. Ils ont un sens commercial qui, même dans la période nazie, est resté toujours très affirmé. Les Allemands n'ont rien perdu alors dans l'intervention en Espagne. On peut dire sans doute même qu'ils en ont retiré très large bénéfice. Et puis intervention aussi du Portugal. Il est clair que Politiquement, le Portugal de Salazar a été un appui certain pour le camp national, d'une part en étant une espèce d'intermédiaire diplomatique très utile, notamment à l'égard de la Grande-Bretagne, puisque le Portugal était allié traditionnellement à la Grande-Bretagne, et puis surtout en facilitant, d'une part, en apportant aussi des hommes. Il y a des Portugais, effectivement, qui se sont battus du côté national, ce qu'on appelait donc la Légion bleue, et puis en même temps, faciliter le transit des marchandises donc à destination du camp national, notamment lorsque la marine républicaine contrôlait encore une partie des côtes. Du côté républicain, sont intervenus, là encore, massivement, les soviétiques, bien sûr, les soviétiques qui sont intervenus dès la fin juillet 1936, les Français. En dépit de la non-intervention, le gouvernement du Front populaire a très fréquemment, alternativement, fermé, rouvert les frontières, laissé passer, fait tourner la tête de l'autre côté à ses gendarmes lorsqu'ils voyaient passer des convois un peu suspects. C'est-à-dire que c'est une politique à géométrie variable, et puis de ce qu'on a appelé les brigades internationales, composées de tout ce que l'Europe pouvait compter de révolutionnaires, patentés, communistes ou autres, effectivement, qui sont engagés, qui sont allés s'engager donc en Espagne. L'aide du côté républicain n'a pas été non plus négligeable. Encore longtemps en France, on a véhiculé l'image que le camp national avait eu un appui massif de la part donc des Allemands et des Italiens, et puis que la pauvre Espagne républicaine aurait été livrée elle-même. Les Soviétiques, les Français ont quand même livré 1627 avions au camp républicain, 931 chars, ce qui est quand même pas négligeable, à peu près 930 canons aussi, et plus de 14 000 véhicules de transport, c'est-à-dire que si on regarde le montant de l'aide en matériel du côté républicain, eh bien, il est supérieur tout simplement à l'aide reçue du côté national. C'est vrai que pour les hommes, c'est moins nombreux, puisqu'il y a à peu près simplement 47 000 hommes venus en gros de toute l'Europe qui sont allés servir donc en Espagne du côté républicain. La différence, et vous voyez qu'à gauche on n'est pas prêteur, c'est que les paiements sont immédiats et que l'URSS engage de son aide à exiger le transfert des fonds, des réserves d'or de la Banque d'Espagne à Odessa, là où il n'y avait évidemment aucun risque. Comme quoi le communisme, bien entendu, défend, c'est aussi défendre ses intérêts, y compris financiers. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça donne de l'expérience que de lutter contre le grand capital. Bon, alors, donc, on sait à quoi s'attendre. Les étapes, si on en vient donc aux étapes de la guerre, le premier défi qui se posait aux nationaux, c'était de relier, comme vous le voyez sur les cartes, des zones qui étaient très dispersées. D'abord, faire franchir le détroit donc aux troupes du Maroc, les troupes les plus nombreuses, c'est-à-dire à peu près 36 000 hommes qui étaient confinés donc au Maroc espagnol, et puis essayer donc de faire se rejoindre les deux fronts, c'est-à-dire les zones du nord où le général Mola, qui commandait en chef, n'avait à sa disposition que de très petits effectifs, de très faibles effectifs, c'est-à-dire que les garnisons étaient squelettiques. Il avait le renfort, de quelques phalangistes, mais ils étaient peu nombreux. Il avait le renfort de quelques officiers de réserve, et puis de quelques paysans galiciens. Et puis, c'est vrai, le renfort des requêtes carlistes de Navarre, 8000 hommes, qui constituaient pratiquement l'élite, justement, du camp national, donc sur le front nord. Mais au total, c'est guère plus de 20 à 25 000 hommes. C'est-à-dire qu'avec ce petit nombre d'hommes, Mola devait se débrouiller, effectivement, pour tenir son secteur. Donc il était tout à fait urgent que l'ensemble des troupes nationales fassent leur jonction. C'est le cas à partir du 29 juillet 1936, grâce à des avions italiens qui sont affrétés, et grâce aussi d'ailleurs aux communistes et aux anarchistes de la marine espagnole qui préfèrent fusiller leurs officiers soupçonnés de traîtrise plutôt que de s'opposer au transbordement donc des troupes franquistes. C'est-à-dire qu'en gros la marine républicaine n'a servi à rien parce qu'elle était complètement désorganisée. Et donc un transfert qui s'opère donc entre le 29 juillet et le 2 août 1936 et qui va évidemment donc là aussi entraîner immédiatement l'offensive en Andalousie. Je rappelle quand même pour mémoire que quand le général Queipo de Llano s'empare de Séville au matin donc du 18 juillet 1936, il a en tout et pour tout 150 hommes à sa disposition. Quand on connaît Séville, on se dit qu'évidemment c'est quand même un coup d'exploit et c'est le ralliement dans les jours qui suivent de ce qu'il y a de carlistes en Andalousie, des phalangistes et puis des conservateurs qui tout simplement disent qu'ils ont le choix entre finir sous les balles républicaines ou rallier illico le mouvement. Donc c'est évidemment des troupes pratiquement dérisoires. Et malgré ça, donc elles tiennent. Une offensive qui est immédiate, dans l'enthousiasme général, il faut dire, alors c'est vrai avec ces images, que bon la critique rapportera, c'est-à-dire que finalement la croisade franquiste, enfin la croisade nationale s'opère avec notamment les unités des régulares marocains hein, qui ont le Sacré-Cœur, donc des musulmans qui ont le Sacré-Cœur cousu sur la poitrine, mais bon on est dans un conflit effectivement où le paradoxe est je dirais, monnaie courante, il n'empêche qu'ils font du très bon travail apparemment, en tout cas Franco ne s'en plaint pas, et on, d'ailleurs on, c'est vrai que généralement ce sont les plus féroces, hein, ceci dit sans méchanceté. Donc le 14 août 1936, mais c'est vrai, c'était des troupes d'élite, hein, tout simplement les troupes coloniales avec le tertio, enfin avec l'équivalent de la légion étrangère, enfin donc qui étaient donc les troupes d'élite espagnoles. Le 14 août 1936, la ville de Badajoz donc est prise, hein, qui est pratiquement la clé du Portugal, enfin de la route du Portugal, bon au bord du Tage, et donc qui ferme la frontière portugaise donc pour les nationaux. Et puis le 3 septembre 1936, donc vous voyez c'est quand même relativement rapide, les troupes de Mola et de Franco font leur jonction à Talavera de la Reina. Donc à partir de ce moment-là, il y a une continuité territoriale du côté national, même si évidemment donc c'est encore relativement fragile, mais il y a très nettement donc une bonne partie maintenant du territoire espagnol donc qui est sous contrôle national, et puis surtout donc les communications sont évidemment facilitées. À ce moment-là se place l'épisode peut-être le plus symbolique de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire et qui souvent a été reproché d'ailleurs à Franco. C'est-à-dire que plutôt que de foncer immédiatement sur Madrid, qui à ce moment-là était encore relativement peu défendu, sans attention, par des troupes organisées, était défendu par les dizaines de milliers de miliciens des différentes obédiences, mais qui effectivement n'était pas défendu par des troupes régulières, eh bien Franco va plutôt foncer sur Tolède. Tolède tout simplement pour libérer les défenseurs de l'Alcazar qui depuis donc le 18 juillet étaient assiégés donc dans cette vieille forteresse, c'est même pas totalement une forteresse, mais enfin ça tenait lieu pratiquement donc de forteresse, Alcazar défendu par une poignée de cadets, en fait très peu, parce que le 17-18 juillet on était en vacances, la plupart des cadets étaient rentrés chez eux, mais en fait défendus par une poignée de gardes civils et par le canal Moscardo, et Franco donc fonce sur cet Alcazar. Alors vous connaissez tous l'épisode fameux qui est peut-être apocryphe, enfin là il y a des doutes, hein, on est dans la petite histoire, mais lorsque les troupes, lorsque Moscardo donc, est encerclé à plusieurs fils qui combattent dans le camp national, un de ses fils d'ailleurs tombe aux mains des républicains, et s'ensuit le dialogue, c'est-à-dire qu'en gros les républicains font chanter Moscardo en lui disant, eh bien, tout simplement c'est la reddition, la vie de votre fils. Et Moscardo aurait eu cette réponse fameuse en disant à son fils, eh bien mon fils, recommande ton âme à Dieu, prie, écris, vive l'Espagne, hein, bon, et évidemment donc le fils est exécuté. Le colonel Moscardo donc a la joie, l'honneur donc le 27 septembre 1936 de voir arriver donc les troupes de Franco et de Capodellano qui viennent le libérer, hein, et évidemment c'est une des pages les plus héroïques, les plus symboliques de l'histoire de l'Espagne. Et il est clair, évidemment, que Franco en tire bénéfice politique, parce que c'est un prestige immense pour lui. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, aucun autre général du camp national ne peut se targuer d'une action comparable, en quelque sorte. Et notamment pas le général Mola, qui pourtant n'a pas démérité donc, au nord. C'est ensuite donc l'attaque de Madrid, une attaque qui s'engage le 7 novembre 1936, mais qui va buter très rapidement sur une défense acharnée, notamment de la part des brigades internationales, dans le secteur au sud-est de Madrid, dans le secteur de la cité universitaire. Et ce sera un échec. Ce sera un échec. Au bout de deux semaines, les troupes nationales donc, doivent refluer. Les pertes ont été très lourdes de part et d'autre. Et Madrid donc, va rester pour trois ans aux mains des républicains. Il est clair qu'une prise de Madrid en octobre-novembre 36 aurait sans doute signifié un effondrement beaucoup plus rapide de l'Espagne républicaine. Mais cette défense, eh bien tout simplement, donc s'avère suffisamment efficace pour. Et puis, rappelons-le, les troupes nationales, ce sont de très maigres forces. C'est-à-dire, je l'ai dit, en juillet 36, il y a à peu près 150 000 hommes. En octobre 36, il y en a à peu près 180 000, 190 000 à tout casser, pour répartis sur toute la zone que vous avez sur les cartes. C'est-à-dire que finalement, les forces engagées sont encore des forces relativement faibles. 1937, c'est l'année, je dirais, où militairement la guerre prend de l'extension, parce que dans chacun des cas, on va commencer à voir les armées s'étoffer tout simplement par le recours à la conscription. On va commencer à mobiliser les classes d'âge correspondantes, donc dans chacune des zones. On va voir l'armée républicaine commencer à s'organiser, c'est-à-dire progressivement les milices vont être intégrées dans le cadre d'unités un peu plus contrôlées, avec beaucoup de réserves, parce que ce sera toujours très difficile du côté républicain que de contrôler, notamment de contrôler les anarchistes. Et puis du côté national, évidemment, les forces vont s'étoffer parce qu'au fur et à mesure que les zones sont libérées, eh bien, donc, l'armée voit affluer donc, les renforts, soit donc, de militants de droite, soit tout simplement donc, des conscrits qui commencent à ce moment-là donc, à intervenir, même s'ils sont encore très peu nombreux. Et d'une manière générale, la pression militaire du camp national sera, je dirais, pression militaire humaine, c'est-à-dire donc, le recours à la conscription sera beaucoup moins fort du côté national que du côté républicain. Une année 1937, donc 37, pardon, marquée par des offensives très importantes, et notamment une offensive en direction du front nord. Il était resté, donc à la suite du soulèvement de 36, une petite enclave au nord, aux mains des républicains, soit donc de la gauche dans la région des Asturies, soit des Basques nationalistes, donc dans la région donc de Saint-Sébastien, Bilbao, Guernica. Et l'offensive va constituer à réduire donc ce front, cette espèce de poche, tout simplement d'une part parce que par là transiter une bonne partie de la soviétique, donc c'était toujours effectivement donc un risque possible, et puis simplement parce que ça permet après aux forces nationales de se concentrer sur un seul front continu, donc plus au sud. La défense de cette zone est d'ailleurs acharnée, il faut le dire, et là aussi se place évidemment un épisode tout à fait symbolique, qui est le bombardement de Guernica le 26 avril 1936 par les forces allemandes de la Légion Condor, qui opérait depuis novembre 36. Il faut préciser, là encore, que les troupes allemandes en Espagne n'étaient aucunement sous le contrôle de la junte de Burgos, n'étaient aucunement sous le commandement militaire espagnol. C'est-à-dire que les Allemands avaient exigé, pour le prix de leur aide, notamment de leur aide matérielle, que leurs troupes seraient totalement autonomes. C'est-à-dire qu'elles faisaient leur guerre, elles expérimentaient leur technique, leur tactique, mais elles n'avaient finalement de compte à rendre, enfin aucun compte à rendre finalement au commandement militaire espagnol, au commandement militaire national. Guernica, bon, qui fait effectivement un certain nombre de milliers de victimes, notamment de victimes civiles, et qui a un retentissement évidemment international relativement important, et des faits évidemment donc, qui désorganisent pour partie la défense basque, qui doit capituler le 23 août 1936, à Santona, d'ailleurs devant les troupes italiennes, devant le corps expéditionnaire, une partie du corps expéditionnaire italien, puisque les Basques ont refusé de se rendre donc aux troupes nationales et que les troupes nationales n'ont pas exigé de recevoir la capitulation donc des troupes basques. Il faut noter d'ailleurs que les troupes basques refuseront de rejoindre les Asturies, qui continuent encore à lutter, et refuseront de rejoindre les forces de gauche qui luttent aux Asturies, tout simplement parce qu'elles considèrent que le combat de la gauche républicaine n'est pas leur combat. Et finalement, donc le front nord s'effondre donc le 19 octobre 1937. À partir de là, donc cette poche est totalement réduite. Durant cette période de l'année 37, Madrid va à nouveau connaître des assauts conduits notamment par les Italiens du général Roata sur les deux secteurs de Jarama et de Guadalajara, donc au nord et à l'est de Madrid, et ce seront autant d'échecs. On doit dire que la défaite subite par le corps expéditionnaire italien donc aux environs de Madrid est sans doute la défaite la plus coûteuse en hommes proportionnellement. Le corps italien a payé très très lourdement donc ces deux attaques contre Madrid à partir des hauteurs donc des Sierras voisines. L'hiver 1937-1938 voit se dérouler en fait les deux véritables offensives du côté républicain. C'est-à-dire que jusque-là, le camp républicain s'est plutôt efforcé de s'organiser, en quelque sorte, et a efforcé de défendre à peu près le territoire qui commençait à lui échapper. À partir de l'hiver 37-38, on a quand même la volonté donc de contre-offensive. C'est le cas notamment en Aragon sur la ville de Teruel, où dans un premier temps, les troupes nationales, qui sont peu nombreuses dans le secteur, sont mises en difficulté, vont reprendre l'offensive, et vont si bien reprendre l'offensive en mars qu'elles vont atteindre la Méditerranée. Le 15 avril 1938, à Vinaros, les troupes nationales donc coupent en deux donc la zone républicaine, isolant donc au nord la Catalogne du reste donc de l'Espagne républicaine, et évidemment donc là renforce, c'est décisif. À partir du moment où la grande métropole catalane, enfin Barcelone, est coupée, c'est aussi la route française qui est coupée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'aide soviétique qui transite encore par la France, ou l'aide française directe, ne peut plus s'adresser qu'à la Catalogne, mais ne peut pas s'adresser à l'ensemble du camp républicain. Or, depuis la fin de 1937, la Méditerranée, le contrôle naval est du côté des nationaux, pour partie parce qu'on a reconstitué une marine, et puis pour partie parce que la flotte italienne patrouille aussi donc pour le compte, en empêchant donc tout débarquement donc de matériel soviétique. Alors, les armées nationales, à ce moment-là, sont, il faut le dire, très épuisées et vont se trouver, là encore, dans l'incapacité de contenir la dernière grande offensive donc républicaine sur l'Èbre, c'est-à-dire que les républicains ont bien compris que leur seul espoir, c'était de rétablir justement la continuité, c'est-à-dire de reprendre, donc d'éviter cette espèce de coupure, notamment pour s'ouvrir donc la frontière française. La situation sera critique pendant quelques semaines, mais au bout de 2 mois, à peu près, cette offensive va s'enliser. Et il faut dire que les troupes républicaines vont laisser l'essentiel de leurs forces dans cette bataille. À partir de ce moment-là, on peut dire que le combat n'est qu'un combat de retardement, mais elles n'ont plus la capacité, en quelque sorte, à inverser véritablement donc le cours de la guerre. C'est aussi dans cette période que, dans le cadre de la non-intervention, les Britanniques vont provoquer l'évacuation des troupes étrangères. Ils vont négocier l'évacuation des troupes étrangères, c'est-à-dire d'un côté donc les brigades internationales, de l'autre côté donc une bonne partie du corps expéditionnaire italien et allemand qui donc quitteront le pays à la fin donc de l'année 38, ce qui n'a qu'un effet finalement relativement limité parce qu'à ce moment-là, il est clair que les dés sont à peu près jetés de toute façon et que la situation du camp national est tout à fait favorable. L'offensive est reprise très facilement en janvier 1939. Les troupes nationales, qui sont désormais puissantes, on est bien loin des effectifs collectifs des débuts de la guerre. C'est-à-dire qu'en janvier 1939, l'armée nationale compte à peu près un peu plus d'un million d'hommes. Vous voyez qu'elle s'est très largement donc renforcée, organisant à peu près 150 divisions. Du côté républicain, on a à peu près 600 000 hommes, avec notamment des pertes très importantes liées à la bataille de l'Èbre. Organisé, et je vous cite le mot parce que c'est quand même assez révélateur, si vous voulez, du peu d'efficacité, en 200 brigades mixtes. Ces brigades mixtes étaient composées pour partie d'éléments de ce qu'on appelait l'armée régulière, pour partie de ce qu'on appelle les milices, et pour chaque officier, il y avait un commissaire politique. C'est-à-dire qu'on imagine évidemment donc l'efficacité donc de la lutte républicaine. Je le cite parce que, il est clair que même s'ils étaient dans le camp de ceux qui ont été vaincus, même s'ils se battaient pour des principes qui peuvent paraître éventuellement condamnables, les républicains n'ont pas démérité. Je veux dire, ils ont le mérite de s'être battus très courageusement. Et les soldats républicains qu'on envoyait sur le front, finalement partaient avec un handicap certain du fait même de l'organisation politique et de l'organisation militaire à laquelle ils étaient soumises. Les troupes nationales donc vont s'emparer assez rapidement de la Catalogne qui tombe le 9 février à la suite donc d'une série de combats de retardement, poussant littéralement devant elle, et on peut dire véritablement poussant devant elle, des milliers, des centaines de milliers donc de fuyards, 500 000 personnes à peu près qui franchissent la frontière française en février 1939, dont à peu près 200 000 soldats, dont certains essaieront de retourner donc sur le front, ils seront relativement peu nombreux, et on peut dire que c'est pratiquement l'agonie de l'Espagne républicaine. Le président Manuel Azaña, ancien premier ministre de la Deuxième République, démissionne à ce moment-là, refuse d'ailleurs de retourner en Espagne, il était pris dans la poche de Barcelone, il refuse de retourner dans la zone qui est encore contrôlée par les républicains, parce que je crois que tout simplement la défaite était entérinée en quelque sorte, ce qui donne l'occasion d'ailleurs aux communistes et aux socialistes de se livrer à ce moment-là, donc une espèce de petite compétition qui débouche finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre le 5 et le 10 mars 1939, à une véritable guerre civile à Madrid, alors même que l'armée nationale, désormais libérée du côté catalan, donc se concentre justement sur cet objectif final. La victoire en Catalogne est pas totalement, et puis la démission d'Azaña ne sont pas totalement innocentes, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que la communauté internationale, et spécialement la France et la Grande-Bretagne, vont reconnaître comme gouvernement légal de l'Espagne le gouvernement de la junte de Burgos. C'est à partir de ce moment-là donc que le gouvernement de Burgos devient donc le gouvernement officiel de l'Espagne aux yeux donc des puissances internationales, à l'exception évidemment de l'Union soviétique, et on peut dire que la guerre à ce moment-là est tout à fait proche, puisque les troupes nationales vont occuper Madrid après reddition, donc le 28 mars, en s'emparant d'ailleurs en, en quelques jours de tout ce qui restait de la zone républicaine, c'est-à-dire qu'en 5 jours, les troupes nationales font à peu près 400 000 prisonniers. Et c'est ce qui explique en quelque sorte, alors prisonniers des soldats, mais prisonniers aussi politiques, parce que là-dedans, vous avez tout ce qui restait de l'infrastructure du gouvernement et des services et des partis politiques de gauche. Et c'est ce qui explique notamment que la répression qu'on reproche au gouvernement franquiste a été si longue. C'est-à-dire qu'après la guerre, tout simplement, dans le feu de l'action, on n'a pas pu fusiller tout le monde. C'est-à-dire qu'on a fait tellement de prisonniers dans les derniers jours, la victoire a été tellement énorme, que la répression donc s'est étalée évidemment donc sur une assez longue durée. Et notamment, bien entendu, dans cette zone, ont été capturés et ont disparu une bonne partie de ceux qui ont continué la lutte jusqu'au bout et qui étaient devenus finalement donc la partie centrale de cet encadrement républicain, c'est-à-dire les communistes. Il est clair que ce sont d'abord eux, en quelque sorte, qui se sont retrouvés confrontés à cet effondrement donc des derniers jours. Le 1er avril 1939, les hostilités cessent et, à l'exception de quelques petits points de guérilla, notamment dans quelques zones montagneuses, on peut dire que la guerre d'Espagne donc se termine. Alors, le bilan, il est évidemment très lourd. C'est 600 000 morts au total, dans l'un et l'autre camp. C'est un pays qui est complètement ruiné, qui est économiquement ruiné, c'est clair. C'est un pays qui est pour partie détruit, et qui est détruit non seulement parce que les infrastructures sont détruites pour une très large part, mais parce qu'il a perdu aussi une bonne partie de son patrimoine, je dirais architectural et culturel. C'est un pays notamment où bon nombre de joyaux architecturaux, mais aussi des peintures, mais aussi des sculptures, auront disparu, notamment du fait donc des violences du début de la guerre, de l'incendie d'une bonne partie du patrimoine religieux. C'est un pays donc qui est livré pratiquement donc à la disette. C'est un pays effectivement dans lequel on aura faim et on aura faim pendant des années parce que d'une part donc l'Espagne sort donc évidemment donc de cette guerre et est détruite, et puis parce que immédiatement évidemment donc le contexte de la Deuxième Guerre mondiale fait que l'Espagne doit se reconstruire pratiquement toute seule, c'est-à-dire qu'elle n'a d'aide de personne et personne n'est à même éventuellement donc de l'aider dans ces périodes. Donc c'est une période extrêmement difficile au plan économique et social qui souffre pour l'Espagne, mais une période qui voit la mise en place, la restauration, pourrait-on dire, donc de cette Espagne nationale, de cette Espagne traditionnelle, qui avait bien failli disparaître donc à la suite donc de la Deuxième République et du Front Populaire. Et c'est une Espagne qui, pour 40 ans, évidemment, va connaître le pouvoir de celui qui a été quand même le grand homme de cette histoire, en tout cas le plus habile, c'est-à-dire le général Franco. Voilà. Alors les carlistes, ils avaient des gros problèmes. Oui, ils sont évanouis, effectivement. Ils sont évanouis pour la bonne raison qu'en 1936, ils n'avaient plus de prétendants. C'est-à-dire que les carlistes, le dernier véritable prétendant carliste, c'est-à-dire le dernier descendant de Don Carlos, est mort en 1936. Il avait désigné pour héritier Charles Hugo de Bourbon-Parme, qui n'a été reconnu que par une partie des carlistes. C'est-à-dire qu'une partie des carlistes se sont ralliés tout simplement à Alphonse XIII, puis à ses descendants. Une partie donc a continué donc de soutenir les Bourbons-Parme. Mais on peut dire que le carlisme s'est pratiquement effiloché pour une bonne raison. C'est-à-dire que Franco, finalement, l'a privé d'existence, de nécessité. C'est-à-dire que l'Espagne franquiste, c'est en grande partie. Et on peut dire qu'après coup, c'est vrai que dans toute cette histoire, ce sont plutôt les carlistes, en quelque sorte, qui ont servi de base politique, en quelque sorte, à la reconstruction de l'Espagne franquiste. Même si ça n'était pas totalement ce qu'incarnait le carlisme, il est clair que le combat politique, quelque part, a cessé d'être, en quelque sorte.
Vous parlez de la garde de fer en Roumanie aussi, avait envoyé des...
Oui, des représentants. Disons qu'en gros, de même que toute la gauche s'était mobilisée dans les brigades internationales, tout ce qu'il y avait de réactionnaires en Europe, soit je dirais sous le mode traditionnel, soit sous le mode plus ou moins fascisant de l'époque, puisque c'était quand même la période, effectivement s'est mobilisé du côté national. C'est vrai que ça a été une guerre éminemment symbolique. On a parlé de la guerre de l'Espagne et de l'anti-Espagne, mais c'était aussi une guerre du fascisme et de l'antifascisme, en gros. Et c'est vrai quelque part que ça posait des problèmes à Franco. C'est-à-dire que Franco a toujours été très très méfiant. C'est-à-dire que notamment, c'est pour ça que par exemple qu'il a éliminé très rapidement la phalange espagnole. Pour Franco, il n'était pas question de faire la guerre pour les fascistes.
et pas du tout question de faire la guerre pour le fascisme, c'est-à-dire que le projet politique qui inspirait Franco n'avait rien à voir avec effectivement ce qui se passait aussi bien en Italie qu'en Allemagne. Il a été toujours très très prudent dans le maniement en quelque sorte de ses corps expéditionnaires. En 1939, après l'entrevue d'Andaille, entrevue avec Hitler, il a d'ailleurs refusé de rentrer en guerre pour une bonne raison. Tout simplement, l'Espagne était tout à fait incapable et il a posé des conditions tellement draconiennes que on rapporte la boutade selon laquelle Hitler aurait dit « Mieux vaudrait me faire arracher deux dents que de recommencer une conversation pareille. » Hein, bon.